Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur l'histoire du logiciel libre à Malakoff avec Corinne Mijon, DSI de la ville, et Grégory Gutierrez, conseiller municipal délégué numérique et citoyenneté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm. Bouton de chat. Alors Corinne, Grégory, merci de vous être joints à nous. Vous êtes venus en studio, donc c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Nous avons longuement échangé en amont de cette émission pour préparer. Je pense ça va faire une très belle émission. En tout cas, je pense que ça plaira à nos auditeurs et auditrices. Alors je vous propose de commencer de manière somme toute très classique par une présentation rapide de l'un et de l'une. Corinne.
Ok, bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Donc je suis Corinne Mijon, je suis directrice des systèmes d'information et du numérique à la mairie de Malakoff. Et depuis très longtemps déjà, puisque je suis arrivée à la mairie de Malakoff en 1987, et je vais la quitter définitivement au cours de cet été. Donc un parcours qui est un parcours de service public par choix, et un parcours dans l'informatique, par choix aussi, en ayant parcouru un peu ces 30 dernières années de l'informatique mainframe au personal computer et à tous les outils qu'on a vus fleurir et dont on a besoin pour le développement des services publics, notamment post-décentralisation avec l'explosion des besoins des collectivités territoriales pour pouvoir rendre le service de la meilleure manière pour les citoyens.
Juste précise que mainframe, c'est plutôt ce qui va être côté serveur, voilà. Les personnes computer, les PC, voilà, les ça. Ordinateurs. Oui. Et c'est vrai que c'est rare d'avoir quelqu'un qui, comme vous, qui va pouvoir nous proposer un regard, on va dire, une perspective de long terme sur les évolutions, sur les questions qui ont traversé, voilà, ces dernières décennies. Donc, ce sera très intéressant, je pense, de vous écouter et justement rentrer dans les détails de certaines choses que vous avez évoquées. Et donc, à côté de vous, Grégory Gutierrez.
Bonjour.
Bonjour.
Donc, Grégory Gutierrez, moi j'ai 49 ans, je suis donc conseiller municipal dans la majorité à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. C'est la première fois que j'ai un mandat électif. Et je suis un vieux geek. Donc, j'essaie d'allier les deux, la politique et l'informatique. Je pense que l'informatique est aussi une question politique.
On est évidemment d'accord à la prime, voilà, pour nous. Moi-même, je ne suis pas informaticien, je suis persuadé, voilà, on fait du logiciel libre parce que c'est un sujet politique, justement. Et on va reparler juste après un peu plus en détail de votre parcours qui est intéressant et qui, je pense, va éclairer aussi nos échanges. Peut-être aussi, enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va dire, est-ce que vous pourriez présenter un peu Malakoff aussi, que ce soit déjà en termes de démographie, d'histoire politique. Voilà, on sait ce qu'on appelle une ville rouge, entre guillemets, voilà, qui a une histoire aussi politique connue de ce point de vue-là. La démographie, combien d'ordinateurs au sein de la DSI, voilà, qu'on ait une idée un peu.
Ok, je commence, Grégory.
Allez-y.
Allez. Malakoff, c'est une ville de la petite couronne parisienne, donc c'est 30 000 habitants. C'est une ville qui a une tradition ouvrière, qui a une représentation à gauche et d'union de la gauche aujourd'hui, avec les composantes de la gauche. C'est une ville qui s'est, dès l'après-guerre, beaucoup marquée sur le développement des services publics, et notamment avec deux grands axes, en tout cas, qui perdurent encore aujourd'hui, autour de l'éducation et autour de la santé. On a par exemple un très gros centre municipal de santé avec énormément de spécialités, un service d'imagerie médicale, donc voilà, des services qui n'existent pas partout, que ce soit en région parisienne ou évidemment en région. Donc des services publics assez développés, la plupart en régie directe. Donc pareil, avec un choix de garder la régie directe le maximum possible. Et puis, au niveau plutôt côté numérique et informatique, on a à peu près entre 600 et 700 postes, ça dépend si j'intègre les écoles dedans ou pas. On a 15 écoles, 7 maternelles, 6 élémentaires pour donner un petit peu de collèges.
Parce que, bah, on rappelle que c'est les municipalités, on la charge des écoles,
voilà,
jusqu'au
secondaire. Voilà, tout à fait, y compris de l'informatique. L'éducation nationale n'investit pas dans l'informatique, elle investit dans la pédagogie, mais pas dans les moyens. Et donc les collectivités de la strate des mairies financent les bâtiments, mais aussi le matériel. Et donc dans ce cadre-là, il y a effectivement eu le plan informatique pour tous fin des années 80 et ensuite l'informatisation de l'aspect administratif puis pédagogique dans les écoles. auquel voilà, chaque mairie a eu son propre plan de développement, hein, dans le cadre de la liberté de chaque territoire. Et donc les services municipaux qui sont informatisés avec des applications métiers qui correspondent sur le côté vertical à, on va dire, une quarantaine de métiers différents. Hein, ou de besoins fonctionnels différents. Et une mairie, c'est pas simplement un logiciel de facturation, un logiciel RH, un logiciel de finance. Une mairie, c'est des espaces verts, c'est des ateliers municipaux, c'est voilà, pour nous, un centre de santé, donc l'informatique médicale, c'est de l'administratif, c'est de l'état civil, c'est des affaires sociales. Donc on a un panel d'usagers, de citoyens et donc de besoins à couvrir, et donc derrière de donner les outils et les moyens qui correspondent aux besoins pour les services, pour pouvoir instruire la demande de l'usager et le service rendu.
Parfait, vous avez déjà devancé la question suivante, d'essayer de nous décrire un peu ce qu'est une DSI, etc. Et en fait, vous venez de nous préciser, voilà, en quelques mots,
voilà, donc ce que c'était. Voilà, le périmètre, c'est à la fois, en tout cas, dans le périmètre de Malakoff, de ma DSI, c'est-à-dire le périmètre que j'ai moi.
Je précise, DSI, c'est
Direction des systèmes d'information, excusez-moi. Ouais. Donc le périmètre, c'est à la fois informatiser les services municipaux, c'est-à-dire avoir des grands choix stratégiques d'informatisation métier, mais aussi, évidemment, transverse. Des outils de collaboration, on aura l'occasion d'y revenir, mais aussi tout ce qui est autour des écoles, dans le cadre de l'informatique administrative et pédagogique des écoles, et un autre axe de ma direction, qui est propre en tout cas à Malakoff, que j'ai porté avec ma collègue de la direction de la vie sociale et des quartiers, c'est aussi l'inclusion numérique, quelque chose auquel je suis particulièrement attachée.
Et on prendra le temps d'en développer en fin d'émission. Après avoir parlé de l'histoire du logiciel libre à Malakoff, on avait convenu d'en parler, parce que je trouve que c'est un sujet effectivement qui est très important. Grégory, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose ?
On peut dire que Malakoff est une des rares villes encore à gauche dans les Hauts-de-Seine, qui est un territoire où on a beaucoup de municipalités qui sont plutôt à droite. Donc c'est une des dernières villes qui tient encore de ce côté-là. Et donc c'est aussi un lieu d'expérimentation sociale, sociétale, où l'ESS est assez très présente, par exemple l'économie sociale et
solidaire.
Et solidaire, merci. Voilà, donc on est dans un écosystème assez particulier à Malakoff au sein des Hauts-de-Seine.
Entendu. Alors c'est vrai que ce n'est pas le logiciel libre, pas qu'un sujet des partis de gauche, mais c'est vrai que traditionnellement, historiquement, c'est plus souvent des municipalités à gauche qui ont plutôt eu tendance à porter le logiciel libre, donc je ne suis pas non plus complètement anodin que ce soit aussi le cas à Malakoff. Peut-être que vous l'avez dit, mais la population à Malakoff, c'est
30 000
habitants.
Sur 2 km² de superficie.
Donc, très haute densité humaine. Alors, on va revenir vers vous, Corinne. On reviendra ensuite vers Grégory. Grégory, vous êtes arrivé, vous avez été élu en 2020, en plus dans un contexte, on ne fera pas le 2020, dans le contexte du Covid. Mais avant cela, on va rester avec Corinne, parce que vous avez dit que vous êtes arrivé en 1987. Mm-hmm. Vous m'avez expliqué que, voilà, en plus, quand vous êtes arrivé, vous avez plus ou moins ou même complètement mis en place les directions des systèmes d'information. Et je trouve intéressant dans ces parties de comment on envisage ça, comment on envisage finalement ce métier. Alors 1987, c'est pas exactement le même contexte, on va dire, technologique, mais bon, l'informatique est déjà quand même assez présente. Je précise d'ailleurs, 1987, le logiciel libre, le mouvement a été commencé autour de 1984. C'est là où les premiers fondements ont été réfléchis et posés, notamment par Monsieur Richard Stallman aux États-Unis. Donc voilà, on a un peu aussi pour situer cette période. Donc voilà, vous arrivez à Malakoff en 1987 et votre tâche est donc de monter une DSI.
Voilà, une de mes tâches au début, parce qu'en fait, c'était le tout début dans les collectivités territoriales qu'on parle de l'informatique. Hein. Donc, en gros, les missions qui étaient gérées par des gros systèmes à l'époque, c'était la gestion du fichier électoral, la gestion de la paye et la gestion des finances. Donc, en fait, il y avait un mini-système avec un terminal à la paye, un terminal aux élections et un terminal aux finances. Enfin, quand je dis un terminal, c'est un ou deux terminaux, c'est pas le nombre qui est important. Donc en fait, c'est ces fonctions-là qui étaient informatisées parce que il faut se remettre dans l'histoire, c'est-à-dire que les mairies n'avaient pas autant de compétences qu'elles n'en ont eu après les lois de décentralisation. Donc là, moi, j'arrive dans un contexte Et je rentre, je finis mes études et je rentre dans la fonction publique par choix, fonction publique territoriale, pour au moment de la mise en œuvre des lois de décentralisation qui donnent des compétences larges aux collectivités territoriales et particulièrement aux mairies. Et donc, au travers de ces nouvelles compétences, développement des services publics, et du coup, qui dit développement des services, dit derrière développement des outils pour pouvoir rendre le service. Donc, c'est le début de l'informatique personnelle, d'informatique qui sort des gros systèmes. Donc, j'achète les premiers personal computers pour pouvoir commencer à faire de la bureautique. Il n'y a pas encore d'accès Internet, hein, tout ça, ça n'existe pas encore. En tout cas, pas d'accès Internet
démocratisé
et accessible financièrement.
Parce qu'on est aussi au tout début du web, d'ailleurs.
Voilà, au tout début du web, voilà. Et donc, on passe par un choix un peu stratégique de mettre pas à pas en place l'informatique, orienté métier, et en travaillant d'entrée de jeu sur ce qui va me guider tout au long de ma carrière. Quel besoin j'ai et quels usages, et en face je vais regarder quels sont les outils qui me correspondent pour rendre correctement le service, tout en ayant en tête le respect, la structuration des données, le respect des données, la protection des données, et puis en essayant de faire assez vite des ponts entre la possibilité d'interagir avec les outils le plus possible. Voilà.
Et moi, j'ai trouvé cette approche, cette réflexion dès le départ basée sur les besoins, sur les usages, en partant de ça. Je sais que souvent, quand on parle avec des personnes qui défendent le logiciel libre, cette vigilance et cette nécessité de point de départ est souvent présente. Elle se pose d'ailleurs aussi dans le contexte d'une conception plus responsable, plus durable de l'informatique. Ces questions sont vraiment centrales. Et lorsqu'on avait préparé l'émission, on m'a aussi dit que très rapidement, vous avez une approche basée sur ce que vous avez dit, toujours garder un œil sur les alternatives.
C'est ça. C'est-à-dire que, bon, quand on est, y compris quand on traverse un petit peu toute cette époque de foisonnement, hein, de solutions techniques, de foisonnement technologique qu'on a connu ces 30 dernières années. Moi, je me suis toujours posée avec toujours des moments d'œil extérieur pour regarder ce qui se passe et se dire, se réinterroger, mais ça c'est ma pratique, y compris managériale, toujours regarder ce qui se passe, prendre un peu de hauteur, faire le bilan, l'analyse, se dire voilà, est-ce que ce que j'ai mis en place correspond aux besoins, et du coup qu'est-ce qu'il y a comme autres outils autour qui pourraient nous permettre de rendre mieux le service. Toujours la question économique, parce que Malakoff n'est pas une ville riche, donc toujours la question économique au cœur. Et du coup, question des besoins, question économique et question éthique. C'est-à-dire que moi, ce qui a traversé ma manière d'aborder les sujets dans ma pratique professionnelle, tous les volets de ma pratique professionnelle, c'est toujours de reposer la question éthique en permanence. C'est-à-dire, si je vais là, je fais toujours une pondération entre ce que je suis obligée de faire en termes d'outils ou de mettre en place et ce que j'aimerais faire pour rendre le service plus facile pour l'utilisateur et aussi pour l'usager.
Très bien, très clair. Alors on avance un peu dans le temps. Vous m'avez dit que voilà, vers 2010 et à nouveau en 2014 sur un autre sujet, mais il me semble très lié, c'est posé la question de la dématérialisation. Alors, c'est que voilà, c'est une période où la question était non seulement à la mode politiquement, mais qui avait un sens aussi à l'envisager. Donc c'est question de la dématérialisation interne. Alors 2014, vous aussi parlez du cartable numérique des élus. Je pense que ça participe de la même trajectoire. Est-ce que vous pouvez nous reparler un petit peu, nous réexpliquer pour les personnes qui ne sont pas familières de cette notion de la dématérialisation, même si je pense qu'elle est assez connue maintenant, mais ça fait jamais de mal de reposer les définitions, et voilà, nous parler peut-être de quelles questions vous avez dû vous poser à ce moment-là.
Alors, vraiment un sujet, c'est pour moi, c'est une époque charnière, c'est-à-dire qu'on a les années 90 2000-2005 par là, où on est dans l'explosion des besoins des collectivités territoriales, les nouveaux services qu'on rend à la population, etc. Donc on est dans une logique métier, on est dans une période où les éditeurs développent des produits spécifiques aux collectivités territoriales parce qu'on a des besoins spécifiques. Donc on est dans cette informatisation métier, versant vertical métier. Et assez peu d'outils collaboratifs, assez peu d'outils transverses. J'enlève la messagerie, je la mets de côté, elle commence dans les années, autour des années 2000, à vraiment se développer. Donc la collaboration, enfin l'horizontale, c'était que la messagerie. Les accès Internet, au début, c'est un point d'accès pour par service ou par direction. Enfin voilà, donc tout ça, ça monte petit à petit. Et donc on a, enfin moi je vois un point charnière qui est important dans les années 2010 parce que les services de l'État commencent aussi à être bien informatisés et donc dans les relations avec les collectivités territoriales, on a des relations importantes avec les services de l'État. Soit côté finance, soit côté préfecture évidemment. Et au travers de ça, il y a des besoins de dématérialiser les flux. Au travers de la dématérialisation des flux, la réflexion, elle est dans d'abord la dématérialisation des flux internes et comment on va dématérialiser vers l'extérieur. Et donc, dans la réflexion, moi je me dis, ce sujet-là, il est transverse, je ne peux pas l'attraper de manière verticale. Et et avoir des choix qui me sont imposés par la partie éditeur métier, puisqu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas le choix. Là, je me dis, c'est des sujets transverses. Il faut que je regarde vraiment les solutions qu'il y a sur le marché. Et surtout, comme j'ai toutes mes briques verticales, qui sont différentes, qui sont globalement construites avec les mêmes outils, parce que c'est une époque, hein, une grosse base de données, même système d'exploitation, etc., mais qui sont issues quand même d'environnements différents. Je me dis, il faut d'entrée de jeu que je travaille sur l'interopérabilité, parce qu'il va falloir que je fasse communiquer toutes ces briques. Et du coup, à partir du moment où se pose la question de l'interopérabilité, assez vite, on fait le choix de regarder ce qui existe en dehors des systèmes propriétaires.
Et peut-être que ça peut être important, parce que alors, quand on défend le logiciel libre, cette question de l'interopérabilité, elle nous est chère, et on dit des formats ouverts notamment, qui sont des garanties structurelles d'interopérabilité, mais c'est pas forcément une notion qui est simple à appréhender, notamment pour les personnes moins familières. Est-ce que vous pourriez peut-être essayer de la définir ?
Alors, l'interopérabilité, c'est la manière de faire communiquer des systèmes d'information avec des outils développés dans des langages différents ou dans des systèmes d'exploitation différents ou dans des univers différents. Voilà.
Et à distinguer de la compatibilité, là, c'est vraiment l'ouverture et la connaissance des spécifications techniques qui permettent d'assurer ce dialogue. Et Grégory, en préparant, j'ai bien compris à quel point ce sujet aussi vous était cher d'un point de vue politique. Et peut-être, je crois que vous auriez peut-être aimé justement partager votre grille de lecture sur cette question de l'interopérabilité.
Oui, cette question de l'interopérabilité d'un point de vue technique d'une mairie, c'est super intéressant. Enfin, d'un point de vue professionnel. Ouais. Et d'un point de vue d'utilisation du net et du numérique en général, le pendant plus grand public, c'est la question, me semble-t-il, de la distinction à faire entre les données personnelles qu'on génère en utilisant les logiciels et les logiciels qu'on utilise pour générer ces données ou pour les retravailler après quoi. Et c'est quelque chose qui était à peu près évident au début de l'informatique pour tous et de l'arrivée d'Internet, etc., et qui l'est plus du tout aujourd'hui, parce que on a des entreprises privées à but lucratif qui font leur beurre financièrement sur les données personnelles qu'on peut générer nous et qui n'ont pas du tout intérêt à ce que vous créez sur ces plateformes, par exemple Facebook, par hasard, puissent se retrouver sur d'autres plateformes. Et quand on regarde ce qui se passe du côté des alternatives ouvertes, libres, open source, etc., je pense par exemple au réseau social Mastodon, c'est super intéressant de voir à quel point la notion de données personnelles est très importante dans ces alternatives parce qu'elles sont décorrélées de l'application ou du portail avec lesquels on les génère. Par exemple, si vous allez sur X, le réseau marchand d'Elon Musk, vous pouvez y publier plein de choses, mais vous pouvez pas publier ça ailleurs que sur X, à part en partageant, en faisant des petits partages à droite à gauche en privé. Mais ce que vous partagez sur X, vous pouvez pas le voir facilement sur Facebook. En tout cas, ce sera pas mis en avant. Alors que sur quand vous êtes sur le fait divers, sur Mastodon par exemple, vous pouvez avoir plusieurs applis différentes pour générer votre contenu ou pour le lire ou pour le partager avec d'autres portails de la même galaxie du fait divers.
Parce qu'ils partagent un protocole et donc voilà, on sait que le logiciel de partage de vidéos PeerTube va pouvoir fonctionner, communiquer et permettre en fait.
Ou avec PixelFed qui est un équivalent d'Instagram, etc.
Parce
il y a plein d'exemples.
C'est même.
Et en fait, redécouvrir tout simplement ces usages-là. Ça permet de se rendre compte que, ah bah oui, en fait, ces données-là, les photos que je publie, les informations, les avis que je donne, pour peu qu'ils soient un minimum pertinents, etc., ils sont indépendants, ils doivent être indépendants de la société qui me permet de les exprimer sur le web. En tout cas, c'est un choix qu'on peut faire. Et je trouve que c'est un choix qui est beaucoup plus rassurant au final, notamment du fait que le numérique et les réseaux sociaux ont pris une telle place dans la société, et en particulier au niveau démocratique. Qu'on le veuille ou non, le numérique est super présent aujourd'hui, et on a plein de chaînes de télé ou de radio qui regardent quelles sont les tendances de Twitter du moment, enfin de X, pardon, pour décider de quels seront les sujets de leur programmation dans la journée. Donc c'est super, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, les réseaux sociaux sont très importants pour rythmer la vie publique et le débat démocratique. Et ça peut pas se faire dans de bonnes conditions si c'est fait par l'intermédiaire d'outils développés par des entreprises privées.
Je pense que vous avez porté un bon portrait des enjeux, notamment autour de cette question de l'interopérabilité. Et c'est vrai que c'est une notion qu'on entend régulièrement. Et je pense toujours bien de se rappeler concrètement ce que ça veut dire et quels sont les enjeux qui s'y attachent. Et pendant que vous avez évoqué, je crois, rapidement, c'est du cloud, voilà, c'est sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Mmh. C'est une forme de dématérialisation. Et là, pour le coup, qui est plus pernicieuse parce qu'elle nous dépossède, alors qu'on voit aussi, il y a d'autres cas, et là, c'était le cas pour revenir un petit peu à ce fil historique de Malakoff. On voit aussi quel bénéfice au début ça a pu commencer à s'installer. Donc voilà, vous avez mis en place,
On a travaillé sur cette mise en place de la dématérialisation avec des acteurs du logiciel libre, qui sont aussi en scope, enfin, qui étaient à l'époque en scope, etc. Donc voilà, il y a une démarche un peu différente, démarche de mutualisation sur l'ensemble, un ensemble de collectivités qui étaient dans la même communauté d'agglomération. Donc on avait d'entrée de jeu l'idée de se dire entre ces quatre collectivités à l'époque, on a des besoins communs. On fait le choix de travailler sur l'interopérabilité et y compris potentiellement de pouvoir réfléchir peut-être à des partages qui vont plus loin que la collectivité. Mutualisation, partage de stockage, partage de licences, etc. Financier. Donc tout ce qui est en fait le modèle alternatif du logiciel libre. C'est-à-dire mutualisation, partage, interopérabilité. On a toute la terminologie là. De cette philosophie et cette éthique un peu différente. Et c'est vrai que sur les outils transverses, faire ce choix-là, stratégiquement parlant, pour moi, c'était un choix majeur. C'était vraiment un choix majeur à ce moment-là, parce que ça permettait de donner la direction dans un certain sens. Et effectivement, en 2014, avec la maire de l'époque, je lui propose de dématérialiser complètement les travaux du conseil municipal jusqu'au jour du conseil municipal, avec ce qu'on a appelé le cartable de l'élu, c'est-à-dire l'outil, alors qui est un outil de type tablette de grands fournisseurs du marché, mais avec une application qui est développée complètement, pour laquelle d'ailleurs on est bêta-testeur à ce moment-là. Voilà. Donc la maire me dit à l'époque, banco, on y va, et dès le premier conseil de ma mandature. Et c'est incontournable. Et là, c'est une notion sur laquelle je reviendrai peut-être après.
D'accord.
C'est comment, à un moment donné, on fait la différence dans la conduite de changement. Et là, ça a été un point très important, parce qu'on est toujours avec les mêmes outils aujourd'hui pour cette mandature 2020-2026. Et voilà, ça fonctionne et tout le monde en est content.
Et comment vous travaillez à cette époque avec les élus? Vous avez dit la maire vous fait confiance, elle vous dit banco, allez-y. Est-ce que vous avez dû convaincre, notamment, on sait que souvent dans les arbitrages, certaines personnes politiques, mais bon, ça peut s'entendre par ailleurs, préfèrent quelque part le côté rassurant des marques connues, des grands éditeurs. On connaît, on fait comme on connaît. Est-ce que c'était difficile pour vous de convaincre? Comment?
Alors, c'est toujours difficile de convaincre, mais ça, c'est notre travail en tant que DSI. Parce que quand on fait des choix stratégiques, il faut toujours convaincre. Après, la conviction, bon, déjà, il faut être convaincu soi-même, mais la conviction, elle a été sur deux axes. En fait, sur la partie choix politique et éthique et la partie choix économique, parce que de toute façon, à un moment donné, le fait de poser la question économique, et pas parce que c'est un modèle gratuit, parce que rien n'est gratuit, et il y a forcément, on a eu des frais de mise en place, de licence, etc. Mais par contre, le fait de poser l'enjeu comme on n'est pas pieds et poings liés sur une solution technique qui fait que licencier, comme on l'a pour d'autres applications dans les collectivités territoriales, parce qu'on n'a pas forcément le choix aussi, sont des arguments qui ont porté. Et à un moment donné, le fait de toujours poser la question, y compris avec les élus, on a besoin de ça, j'ai besoin de fonctionner comme ça, j'ai besoin d'aller vers ça, et avec telle orientation stratégique, pour telle raison. Voilà, on réussit pas toujours à convaincre, mais à ce moment-là, ça s'est fait.
D'accord. Et ce que je comprends, c'est que vous étiez finalement, c'était vous qui étiez moteur un petit peu des propositions. Il n'y avait pas un point de départ politique. C'était, même si votre approche peut l'être par ailleurs, mais en partie par ailleurs. Mais voilà, c'est depuis la DSI que vous avez dû chercher à convaincre pour mener ces.
C'est ça, voilà. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une feuille de route politique. Oui. Mais une relation de confiance sur la base de la traduction opérationnelle et stratégique côté numérique de la feuille de route politique.
D'accord. Est-ce qu'il n'y avait pas de conseiller ou de conseillère au numérique?
Alors, il y en a eu, il y en a eu.
D'accord. Mmh. Je pose moi la question parce que voilà, si on suit le fil de notre histoire, on arrive en 2020. Alors 2020, on y reviendra. Ça a été bien sûr l'année où a commencé le Covid, mais ça a aussi été une élection municipale. Donc Grégory, vous étiez sur la liste candidate et qui a gagné les élections. Vous êtes sur le mandat. Vous êtes à la délégation numérique et citoyenneté. Et déjà, je trouve c'est toujours intéressant parce que parfois on sait qu'il y a une liberté un petit peu dans la définition des mandats et parfois on a plutôt numérique. Économie, etc. Là, je trouve l'association numérique et citoyenneté intéressant et je vous laisserai, je vous laisse d'ailleurs nous en parler.
Élaborer. Quand on a été élu, on m'a souvent posé la question de savoir en quoi ça, pourquoi j'avais ce portefeuille-là numérique et citoyenneté, y compris de la part d'autres élus qui me disaient mais c'est quoi le rapport entre les deux exactement quoi. Et moi, ça me semblait évident que. Encore une fois, dans la vie numérique que l'on a aujourd'hui, qui s'impose à nous quasiment, c'était nécessaire que les questions de l'expression citoyenne passent forcément par des outils informatiques et par le numérique aujourd'hui, et que le rôle d'une mairie est de s'assurer, ou en tout cas d'expliquer aux gens pourquoi c'est important et quels sont les risques possibles, les dangers possibles, etc. Donc moi j'avais une approche assez qui se voulait, c'est peut-être un peu prétentieux, mais un peu de pédagogie sur le sujet. En 2020, on avait déjà beaucoup de débats sur les fake news, la désinformation qui sortait sur le net, sur plein de sujets, et notamment sur des sujets de démocratie. Là, il y a un dossier qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai pas sous les yeux sur. Les influences étrangères en France en temps d'élection, donc on est en plein dedans, notamment les ingérences russes qui passent par les faux comptes sur Twitter et ailleurs, quoi. Sur X, j'arrive pas à m'y faire, mais je vais y arriver. et donc voilà, numérique et citoyenneté, c'était pour expliquer des choses très simples aux citoyens et citoyennes de Malakoff. La première étant, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle habituellement des données personnelles? Qu'à mon avis, on peut tout à fait rebaptiser des informations intimes. C'est des informations vraiment intimes des personnes qui sont sur leur téléphone portable, dans les caches de leur navigateur sur leur ordinateur, etc. Donc cette question des données personnelles, cette question aussi du fait qu'un outil qu'on utilise sur son ordinateur, il n'est pas apparu comme ça par magie, il a été fabriqué. Est-ce qu'il, selon quelles règles ? C'est là qu'on arrive sur la question de logiciel libre, open source ou logiciel propriétaire, qu'on appelle aussi logiciel privateur de droit. Mais voilà, c'est des choses qui s'expliquent, qui ne sont pas évidentes. Parce que pour le grand public, quand on va acheter une tablette ou un ordinateur pour le gamin ou pour la grand-mère, je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé, dans une grande surface, on ne se pose pas la question de ce qui fait tourner l'ordinateur. Il est vendu avec Windows ou avec Apple et point barre. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que ça existe, point barre.
Très bien. Et alors, puisqu'on a parlé aussi, je trouve que votre parcours, parce qu'on n'en a pas encore parlé, est intéressant aussi parce qu'il va éclairer, je pense d'ailleurs la suite, il éclaire votre engagement vis-à-vis du logiciel libre. Hein, vous arrivez déjà convaincu, d'ailleurs on en parlera plus tard, vous avez posé une feuille de route qui mentionne explicitement le logiciel libre. Le logiciel libre fait partie de votre histoire militante, je pense qu'on peut le dire ainsi. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu, genre, de votre parcours et notamment de la place du logiciel libre dans celui-ci?
Oui, alors... Je vous assure, je ne vais pas être très long sur le sujet, mais ça commence à la fin des années 80, quand j'arrive à convaincre mes parents qu'il faut absolument m'acheter un Amstrad CPC 6128.
Bon, les connaisseurs apprécieront.
Voilà. Et que je commence à coder un petit peu pour faire des menus de jeux sur les disquettes que j'échange avec mes copains à l'école. Et ensuite, je passe sur un PC avec Windows 3.1. Je m'ennuie profondément là-dessus. Et à cette époque, alors je crois qu'on est au début des années, tout début des années 90, il y a un magazine sur lequel je tombe dans une librairie papeterie, Linux Magazine, avec un CD-ROM pour installer. Je crois que c'était une distribution Mandrake à l'époque.
C'est ça.
Et donc je me dis, mais c'est génial. En plus, on m'explique que tout ça est ouvert et gratuit, que c'est des gens qui collaborent entre eux pour développer le bidule. C'est pas des entreprises, super intéressant. Donc voilà, personnellement, j'ai toujours testé des distributions Linux, même si j'étais pour le boulot, pour mes obligations d'adulte, sur un Windows ou sur un Mac à certains moments. J'ai jamais totalement abandonné. Dans mon engagement politique, donc moi je suis dans le parti des écologistes depuis 2010-2011, j'ai adhéré à ce parti en partie, notamment parce qu'il y avait une communauté de geeks à l'intérieur qui était déjà sensibilisée à ces questions-là. Et parce que la philosophie de l'open source à l'époque imprégnait même la réflexion politique. Je me souviens d'un édito, ça devait être en 2011 dans Le Monde. Je crois qu'à l'époque, c'était signé par Daniel Cohn-Bendit, sur le fait qu'il fallait réussir à faire de la politique comme on fait de l'open source, c'est-à-dire de manière collaborative avec tout le monde, de manière itérative. Et je trouvais que la noce, c'était assez courageux de présenter les choses comme ça, mais que c'était super, super important pour la chose publique, pour la République. Donc je me suis lancé là-dedans. Dans mon parti, j'ai eu pas mal de fonctions en interne. J'ai notamment participé aux activités du comité des outils numériques de mon parti. Et à ce titre, en 2020, j'ai fait partie de ceux qui ont milité pour qu'on abandonne les messageries instantanées comme WhatsApp ou Telegram pour privilégier Signal. Parce que Signal, il y avait une encryption de bout en bout, un chiffrage de bout en bout des échanges.
Au sein d'Europe Écologie Les Verts.
Au sein d'Europe Écologie Les Verts à l'époque, ouais. Et chose qui avait été reprise à l'époque en interne. Donc il y a aujourd'hui encore beaucoup de gens qui utilisent Signal dans le parti. Pas seulement, il y a des gens qui sont totalement réfractaires, qui disent « mais WhatsApp, ça fonctionne très bien, pourquoi est-ce qu'on passerait à autre chose ?» Je dis « quand on a un candidat à la présidence qui critique ouvertement Poutine, pendant qu'il y a une guerre à nos portes, c'est peut-être bien de pas utiliser Telegram dont les serveurs sont en Russie. On ne sait jamais, quoi. C'est avec une encryption qui est pas géniale non plus. Donc, ce genre de petits détails. Peut-être qu'à un moment, ça peut jouer un rôle, quoi.
Oui, dans un parti politique, on peut espérer une grille de lecture politique des sujets. C'est vrai que c'est.
Eh ben, c'est pas évident. Ouais. C'est pas évident non plus.
Bah merci, je pense que ça éclaire bien, ça pourrait éclairer, savoir qui parle et d'où vous parlez, et quelle connaissance, quelle place occupe le logiciel libre dans votre histoire. On va ensuite parler de la feuille de route que vous avez pu rédiger à votre arrivée. Avant cela, je vous propose de faire une pause musicale. Nous allons écouter Peace Like a River par Luke Olzina. On se retrouve juste après. Belle écoute. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune 93.1.
Peace like a river in my soul. In my soul. I got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. In my soul. I got love like an ocean. Soul. In my soul, love like an ocean in my soul. In my soul, I got love like an ocean. I've got love like an ocean. I've got love like an ocean in my soul. In my soul, deep and wide, deep and wide. There's an ocean that's flowing deep and wide. Wide, deep and wide, there's an ocean flowing deep and wide. I got joy like a fountain in my soul. In my soul. Joy like a fountain in my soul. In my soul. Joy like a fountain. I've got joy like a fountain. I've got joy like a fountain. Like a river in my soul. In my soul. Peace like a river in my soul. In my soul. Well, I've got peace like a river. I've got peace like a river. I've got peace like a river in my soul. In my soul. Deep and wide. Deep and wide. There's a river that's a flowing. Deep and wide, there's a river flowing deep and wide.
Nous venons d'écouter Peace Like a River par Luke Olzina, disponible sous licence Creative Commons 0, qui se rapproche le plus d'une session volontaire dans le domaine public.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu pour l'April et vous écoutez Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Nous discutons de l'histoire du logiciel libre à Malakoff avec Corinne Mijon, DSI de la ville, et Grégory Gutierrez, conseiller municipal, délégué numérique et citoyenneté. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Et donc nous discutions effectivement de l'histoire du logiciel libre à Malakoff. Nous étions rendus en 2020 et Grégory, date à laquelle Grégory a été élu conseiller municipal, comme je le disais, numérique et citoyenneté. Alors je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'on a une question sur le web chat. Corinne nous expliquait qu'en 2010, il y avait eu toute question sur la dématérialisation. Sur le web chat, je retrouve mon onglet, voilà. Marie-Ozy nous demander, voilà, est-ce que vous avez été en contact avec Adulac? Et en préparant l'émission, il me semble que ça faisait partie justement, très rapidement, mais voilà, effectivement, vous avez travaillé avec Adulac
oui,
à ce moment-là.
Complètement. En fait, j'étais en contact avec Adulac et on a travaillé avec Adulac projet, donc côté Adulac associatif, dans des sphères, je dirais, de réseau professionnel. Et après, on a travaillé avec Adulac projet, qui était l'intervenant sur le sujet de la dématérialisation open source pour les collectivités territoriales.
Je précise, effectivement, l'ADULAC, c'est une association qui promeut le logiciel libre auprès des collectivités,
territoriales.
Voilà. Et qui propose des solutions. Voilà, c'est pour ça qu'il y a deux branches, comme vous l'expliquez.
Voilà, complètement. Et on est toujours dans la suite de ce premier investissement et premier engagement autour des produits développés par ce système-là.
Voilà. Et merci Marie-Odile pour cette question. Effectivement, c'est une précision intéressante parce qu'elle a dû là, effectivement, fait un travail important auprès des collectivités. Et heureusement, effectivement, qu'ils font ce travail. Donc voilà, 2020, Grégory, vous êtes élu. Alors, vous nous avez parlé de votre parcours, ce qui vous a amené un petit peu à cette appétence pour le logiciel libre. Et donc, vous avez porté une feuille de route qui part de le logiciel libre, si vous souhaitez élaborer là-dessus. Et peut-être, tout en répondant à la question, voilà, vous êtes élu au sein d'une majorité, donc pas seulement Europe Écologie Verte, hein, une majorité de gauche.
Oui, oui.
Quelle place occupe le logiciel libre? Alors, vous avez eu un mandat, c'est que quelque part, avec une feuille de route qui a été acceptée, donc c'est quelque part il a accepté, mais est-ce que c'était difficile de pousser le logiciel libre? C'était tout de suite soutenu? Voilà, comment...
Alors,
sans vouloir vous mettre en faux par rapport à vos collègues.
Bien sûr, bien sûr. Déjà, un grand merci à la maire actuelle de Malakoff, parce qu'elle nous a demandé de rédiger des feuilles de route pour chacun des élus municipaux. C'est pas une obligation, ça se fait pas dans toutes les mairies. Et une feuille de route, ça engage. C'est-à-dire expliquer en quelques pages, tout au long de la mandature, ce qu'on compte faire. Et ça reste. Les paroles ne restent pas, les écrits oui. Donc on peut toujours trouver ces feuilles de route sur le site de la mairie de Malakoff.
Elles seront disponibles sur la page de l'émission, je précise, super. Si quelqu'un veut les lire.
Et donc la mienne, c'est moi qui l'ai rédigée entièrement et qui l'ai proposée telle quelle à la maire et à son cabinet, qui a dit bon ok, banco, on fait comme ça, c'est très bien, on te fait confiance et tout. Donc cette feuille de route, il y a trois points... principaux dedans, il y a la lutte contre l'exclusion numérique, ce qu'on appelle aussi l'électronisme, qui touche entre 20 et 25% de la population en France quand même. Et pour s'apercevoir de ce dont il s'agit, bah, et si vous avez une maman un peu âgée qui doit faire ses déclarations d'impôts sur le web, vous savez de quoi il retourne. Rien que ça. Je parle d'expérience. Hein. Mais ça touche beaucoup de personnes, des familles entières qui ont du mal avec l'outil informatique, ne serait-ce que parce que ça coûte cher à avoir quelque chose qui fonctionne bien, qui soit rapide, etc. Mais aussi que quand on ne maîtrise pas super bien le français, par exemple, et pas super bien l'informatique, on est très vite complètement perdu. Donc ça, c'est un premier volet, l'inclusion numérique. Le deuxième volet qui est le développement autant que possible, l'encouragement aux logiciels libres, open source, aux alternatives non privées, etc. Et le troisième qui est d'essayer de porter l'open data au sein de Malakoff et au niveau départemental. Il existe déjà un portail au niveau des Hauts-de-Seine d'open data qui est bourré d'informations super intéressantes. Mais comme beaucoup de portails open data, si on n'est pas soi-même un petit peu familiarisé de l'informatique, un peu geek sur les bords et tout ça, le grand public ne va pas sur ce genre de portail.
C'est-à-dire que open data, c'est l'ouverture des données produites par les administrations.
C'est ça, c'est ça.
Et non personnel.
Non personnel.
Non personnel, évidemment.
Qui fait partie de ces exceptions à l'ouverture.
Ouais. Voilà, mais par exemple, ça peut être très intéressant sur l'open data du département des Hauts-de-Seine. On a scanné de vieilles cartes du département d'il y a un siècle, deux siècles, trois siècles avant que ça s'appelle les Hauts-de-Seine, évidemment. Donc, on a beaucoup de cartes numérisées, des cartes postales aussi des différentes villes, celles qui ont bien voulu se prêter au jeu et ouvrir leurs archives et les numériser. Et puis aussi des données beaucoup plus factuelles, le nombre de foyers qui touchent le RSA par ville, ce genre de choses, vous voyez. Donc il y a le nombre d'arbres remarquables dans les Hauts-de-Seine, par exemple, etc. Donc tout ça, c'est des données qui, comme elles sont générées grâce aux services publics, ont vocation à être ouvertes, gratuites, partagées avec tout le monde. Mais il y en a des masses et des masses, donc c'est toute une histoire de réussir à les rendre disponibles et lisibles pour le grand public, pour les citoyens et les citoyennes, parce que on peut dire, en gros, c'est financé avec les impôts des gens et ce que l'État donne aux collectivités territoriales pour ce faire. Donc, c'est normal que ce soit restitué au public.
C'est un droit ancien qui date de 1978 ou 14, j'ai un blanc, voilà. On parle souvent de la CADA, voilà, du droit d'accès au code non administratif, et fait, ça découle de ça, et avec une vocation d'être encore plus proactif.
C'est ça. Et alors, il y a un quatrième point dans ma feuille de route, c'est l'éducation à Internet aussi, c'est-à-dire la lutte contre la désinformation, contre les fake news, etc. Et ça n'est pas que auprès des enfants et des adolescents, c'est aussi auprès des adultes.
Parfait. Alors, voilà, donc l'arrivée en la personne de Grégory d'un élu numérique qui a une connaissance et une affinité pour ces enjeux, qui les défend. Quelle différence pour vous à la DSI par rapport à une situation antérieure où j'ai compris que vous aviez une relation de confiance? Là, vous avez l'arrivée d'un délégué au numérique, mais vraiment numérique, qui saisit ces enjeux, qui propose une préférence pour le logiciel libre. Voilà. Qu'est-ce que ça change pour vous en termes de travail et d'approche?
J'ai un vrai sponsor, comme on dit en changement, en conduite de changement. Hein. Donc, j'ai un vrai sponsor sur ces sujets-là, sur lesquels, effectivement, ces sujets que je porte, moi, dans ma direction. Et du coup, j'ai la traduction véritablement feuille de route politique de ce que stratégiquement, je sens comme étant nécessaire comme direction pour l'informatique des collectivités territoriales, en tout cas de la mienne. Donc, pour moi, c'est un appui. Bon, la relation de confiance s'est faite facilement. Et effectivement, on a une communauté de vues à ce moment-là sur ces sujets-là. Donc, ça ne peut être que un plus dans la menée des projets stratégiques et de la feuille de route que moi, j'ai pour ma direction.
C'est bien. C'est vrai que souvent, quand on s'intéresse à ces sujets, on sait que l'importance pour que les collectivités puissent vraiment avancer, d'avoir cette coordination, tant de la part des élus que de la direction centrale aussi, et de la DSI, on sait à quel point voilà, c'est quelque chose qui...
Complètement, c'est vraiment... ces sujets-là, comme c'est des sujets qui sont difficiles, qui sont éminemment politiques, sont vraiment... On a besoin de positionnement aussi au niveau le plus haut du décisionnaire parce que il faut qu'on sorte de la logique technologique parce que l'argument technologique n'est pas suffisant. Derrière l'argument, on le verra après, on en discutera quand on a fait notre Big Bang, il y a besoin à un moment donné d'articuler feuille de route politique, feuille de route stratégique de la direction d'administration et feuille de route de la DSI. Et quand c'est convergent et conjoint, comme il y a des frottements sur des projets de changement avec les logiciels libres, parce que c'est vraiment du changement, souvent, hein, et que la conduite de changement d'un projet numérique, on sait toujours que il y a des endroits où ça frotte beaucoup. Aujourd'hui, nous, DSI, on sait qu'un projet de changement vers l'open source ou du libre, on va embarquer dans le projet encore plus de freins au changement. Et quand il y a plus de freins au changement, ben, on a besoin de plus de sponsors.
Ça me paraît clair. Eh bien, vous avez évoqué ce Big Bang qu'on a mis dans le titre parce que je trouve l'expression intéressante et elle témoigne aussi voilà, de votre démarche. Alors, je vois l'heure qui tourne. En 2020, il y a eu ce Covid et vous m'avez dit que voilà, vous aviez dû vous poser cette question. Je vous propose bien sûr d'en parler, mais peut-être nous concentrer sur comment ça a conduit dans un second temps à ce que vous avez appelé un Big Bang en 2022, un Big Bang sur les outils de messagerie. On sait que c'est souvent des questions difficiles, la messagerie, mais au combien importante en termes de besoins et d'usages actuellement.
Complètement. Oui, c'est important de repositionner à partir 2020 parce que c'est la période qu'on connaît. Hein, pour les collectivités territoriales, c'est la période du confinement. Enfin, pour tout le monde, c'est la période du confinement. Et pour les collectivités, on n'a aucune espèce d'expérience sur le télétravail. Ce n'est pas notre logiciel, pour le coup. Donc là, en 3 semaines, il faut qu'on trouve des outils, il faut qu'on trouve des choses pour donner la possibilité aux gens de travailler, parce que nous, on avait aussi la question de la continuité du service public. Et donc là, en germe, j'avais déjà sa question de problématique d'outils collaboratifs, et je suis en veille encore plus sur ces outils qui vont nous permettre, post-Covid, de se dire... Désormais, on est dans du travail hybride, ça va durer longtemps, et il faut qu'on trouve des outils de collaboration qui soient accessibles à tous, accessibles financièrement pour la collectivité, qui puissent, dans le temps, nous permettre de travailler différemment et d'aller vers un autre modèle. Et un autre modèle, si possible, qui ne soit pas propriétaire. Parce que moi j'ai vu les choses se faire en 2020-2021, les modèles économiques des entreprises, des majors sur le marché du numérique, ça a complètement explosé quoi. C'est-à-dire que c'est début des offres développées en mode SaaS, les suites en ligne, etc.
Ça, software as a service, c'est-à-dire qui s'exécute à distance sur l'ordinateur
voilà.
de quelqu'un d'autre.
Donc là, on est dans un au travers de cette période qui est vraiment un moment important, une charnière. Il y a un avant et un après sur le numérique et aussi dans les collectivités. Donc là, je me dis, on peut pas se faire piéger par des systèmes all-inclusive où en fait je fais un gros chèque à la fin et je ne sais plus ce qui se passe. Je ne maîtrise plus rien, je ne maîtrise plus mon système d'information, je ne maîtrise plus mes données. Mais en même temps, ce besoin-là, il est majeur, il existe et il faut qu'on y réponde.
Et c'est intéressant parce qu'on voit à la fois la problématique, ne serait-ce que d'un point de vue strict de maîtrise technique, et puis ça fait écho bien sûr à ce que Grégory vous avez développé dans votre feuille de route, les enjeux politiques aussi d'une dépendance. Et voilà, donc ça c'est vraiment des questions importantes. Vous souhaitez compléter, Grégory, ou...
Non, on peut continuer.
Continue. Donc ce moment, je suis désolée, je suis revenue sur 2020, parce que c'est vraiment un moment charnière. Je pense que pour tous les DSI de collectivités territoriales, c'est un moment de charnière, parce que on a été obligés très vite d'intégrer d'autres manières de travailler que les entreprises privées avaient gérées de manière différente au fil du temps. Mais pour nous, il y a un avant et un après. Et donc, obligation de fournir des outils de collaboration pérennes. Et on en arrive à 2022 où on est obligé de se poser la question de changement technologique, là, pour le coup, technique et technologique, de système de messagerie qui est trop ancien, donc qui est exposé potentiellement au niveau de l'environnement cyber. Et là, je me repose la question complètement en disant je regarde ce qui existe aussi dans un autre écosystème. Parce que là, la note est trop lourde financièrement. J'ai regardé déjà, j'ai fait des expérimentations en open source sur Dadget Collaborative avec des outils collaboratifs open source. J'ai mis à disposition très très vite, pendant la crise Covid, pendant le confinement, les Jitsi, enfin voilà, ces plateformes-là, Big Blue Button, Jitsi, en ligne évidemment.
Ce sont des outils de visioconférence.
Des outils de visioconférence.
Et la JED, tu peux dire.
J'ai dit JED collaborative. Donc je fais le choix, à un moment donné, d'avoir un projet de JED open source, JED collaborative.
C'est quoi la JED collaborative ?
Gestion électronique de documents.
Merci. Pardon.
Gestion électronique de documents, embarquant les outils collaboratifs, avec l'idée que. Il faut qu'on aille, ça c'est la cible. La cible c'est le serveur de fichiers, c'est caduc. La cible c'est la gestion électronique de documents avec les process, avec de l'archivage, avec etc., etc. pour aller après derrière vers le système d'archivage électronique. Et donc je fais une expérimentation sur une JED collaborative open source. Mais comme ce n'est pas très très mûr en interne, je choisis des directions pilotes. Et avec Grégory, des groupes d'élus pilotes. Et bon an, mal an, il y a des endroits où ça marche, des endroits où ça ne marche pas. On a vraiment beaucoup de mal à avancer sur les outils nouveaux, parce que je décide à ce moment-là de ne pas y aller pour tout le monde en même temps, de la même façon. Je décide de faire des groupes de pilotage et des gens en me disant les groupes pilotes avec lesquels je vais travailler vont essaimer leur expérience, vont communiquer avec les autres. Et pour plein de raisons ça, voilà, qu'on a identifiées, ça fonctionne pas comme ça aurait dû fonctionner. C'est-à-dire je perds des gens en route mais j'ai des freins. Et il y a des endroits où ça aurait dû marcher, ça marche pas. Donc 2022, quand se pose la question du changement de messagerie, je me dis là on peut pas recommencer la même chose, on peut pas faire quelque chose qui est peut-être bien que oui, peut-être bien que non, toi tu y vas et toi tu y vas pas. Donc là c'est pour ça que je l'ai appelé le Big Bang. Je décide, quand je dis je, évidemment après avis de la direction de l'éducation numérique, la direction générale, je présente en CODIR une alternative, changement de messagerie, mais pour des choix éthiques, politiques, économiques, il m'en manque un, et technologiques, d'ouverture, d'interopérabilité. On choisit une solution de messagerie open source avec tout l'écosystème autour de collaboration.
Et ça, c'est reçu comment ? Alors, CODIR, c'est comité de direction.
Comité de direction.
Voilà. C'est pas les élus qui participent.
Non,
c'est vraiment
que les directeurs de service et la direction générale. Là, je suis, quand on passe en CODIR, c'est qu'on a l'aval de la direction générale. Donc, la direction générale porte ce projet, accepte ce projet. Les élus acceptent ce projet-là. Évidemment, ça a été vu.
Facilement, d'ailleurs, ou ça vous avez dû convaincre
J'ai, en fait, c'est une fois que les élus se sont retrouvés avec le nouveau portail web pour se connecter à leurs emails que j'ai eu des retours.
D'accord.
Avant,
c'était pas leur, oui,
c'était pas leur,
pas leur question. Okay, voilà.
Et c'est là que ça devient intéressant.
D'accord. Voilà. On va y revenir juste après.
Voilà. Donc, c'est présenté, mais comme une décision qui est partagée, mais je partage sur les motifs, sur les objectifs, mais la décision, elle est prise. C'est pour ça que j'ai appelé ça un Big Bang. Et en gros, c'est à tel moment, pour tout le monde en même temps.
Et ce qui ne veut pas dire, est-ce que là, vous en avez parlé notamment lorsqu'on a préparé l'émission, que vous n'avez pas accompagné, et évidemment, alors, vous avez accompagné.
Le,
voilà.
Le tout le monde en même temps ne veut pas dire qu'on n'a pas accompagné, voilà. Effectivement, merci.
Big Bang, voilà.
C'est pas voilà. Big Bang, c'est le Big Bang du choix, c'est-à-dire on arrête un fonctionnement et on passe à un nouveau fonctionnement. C'est pour ça que j'ai appelé ça un Big Bang. Par rapport à la GED, où on avait dit, on y va pour certains, on fait des groupes pilotes, et puis on accompagne, etc. Là, on prend la décision d'investissement qui va vers là, vers la messagerie open source et les outils Big Blue Button, enfin Nextcloud, etc., embarqués. Et on met en place un plan d'accompagnement. Donc là, avec tout ce qu'on peut mettre dans la balance, c'est-à-dire formation, tuto, accompagnement des services dans des réunions de services. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre encore? Évidemment, les réunions diverses et variées, présentations aux élus, etc. Donc,
il y a une chose qu'on avait parlé dans cette logique-là que je trouvais très intéressant, c'était ce que vous appelez les JTEC.
Voilà, donc du coup, voilà, on se dit, on fait de la formation. Donc on a un formateur interne sur la bureautique, donc on missionne le formateur aussi. Je fais des grands groupes. C'est-à-dire que je fais des présentations en grand groupe 3 semaines avant le basculement. Je fais des présentations sur inscription où tout le monde peut venir pendant 2 heures pour échanger comment je présente ce que va être la nouvelle messagerie. J'explique ce qui va changer. J'explique pourquoi on a choisi ça. 3 semaines avant, en disant voilà, ça va arriver, ce sera comme ça. Voilà, on va le faire ensemble, on y arrivera ensemble. Donc, présentation, accompagnement, les directions, les grands groupes. Ensuite, les formations pour ceux qui avaient besoin. Après la mise en œuvre, re-formation, tuto, livré. Séance de formation en grand groupe avec les livrés, avec questions-réponses. Et puis, on met en place, on se dit, il nous manque encore des gens là. Il y en a qu'on n'a pas réussi à toucher parce qu'ils sont éloignés, parce que des agents qui travaillent dans les écoles, des agents qui travaillent aux espaces verts, à la voirie, à une mairie, c'est énormément de services, énormément de typologies de salariés et qui ont des besoins complètement différents. Et donc là, on se dit, il faut qu'on crée un moment, un lieu, un espace de temps et de lieu dans lequel les gens viennent sans avoir besoin de monter à la DSI. Parce que c'est un peu impressionnant, monter à la DSI. Et donc, on fait tous les mardis, on fait 2 heures. On appelle le JTEC, le journée de la techno, donc le JTEC. Et deux jeunes techniciens sont là à dispo. Et contact. Ils répondent à toutes les questions qui viennent. Ouais. Ça peut être, je voudrais mettre la messagerie sur mon téléphone. Ça peut être, je comprends pas ce truc-là. Je voudrais faire une liste de distribution. J'y arrive pas, etc., etc., etc. Et soit ça déborde après sur le formateur. Et du coup, là, c'est de l'accompagnement personnalisé où on se dit, tiens, on n'avait pas pensé à ce besoin-là. On met en place cette formation-là en lien avec l'ARH. Soit, effectivement, ça peut être réglé comme du support et il va intervenir régulièrement.
Je trouve que c'est une bonne idée de mentionner. Je trouve que l'idée est bonne et peut-être qu'elle pourra inspirer les personnes qui nous écoutent, que ce soit au sein de collectivités, d'entreprises qui font cette conduite au changement, de ramener finalement de l'humain aussi, de la formelle un petit peu.
C'est ça. L'idée, c'est de faire redescendre l'informatique à la cafétéria. C'est-à-dire que l'endroit où on vient boire un café, on vient discuter à bâtons rompus de choses, ça me casse les pieds ce truc, j'arrive pas à le faire. Bon bah là, il y a un endroit où je peux venir, il est accessible, il est là dans la cafétéria et je peux lui poser toutes mes questions sans avoir besoin de dire je vais toquer à la porte de la DSI, ils vont être tous sur leur ordinateur, ils seront pas disponibles.
Donc, ça désacralise quoi.
Voilà, ça désacralise. On revient vers l'utilisateur.
Et Grégory, vous disiez, du coup, vous avez reçu des appels d'autres élus suite à ces changements. Ça peut être une illustration intéressante.
Alors, j'ai certains de mes collègues qui sont très contents avec la nouvelle version des emails de la mairie à travers un portail web. D'autres qui ne le sont pas du tout. J'ai le cas d'un élu assez proche de moi qui, lui, utilise des ordinateurs Mac et le logiciel Mail des Macintosh depuis belle lurette. Il a 6 ou 7 comptes email différents dans son logiciel mail sur son ordinateur qu'il utilise depuis 4 ou 5 ans au moins, quoi. Donc il a des, et il fait des exports d'archives régulièrement au cas où l'ordinateur disparaît un jour. Et avec la nouvelle, le nouveau portail web des emails, bah, il retrouvait plus ses petits. Il n'arrivait pas à connecter le nouveau serveur de mail à son logiciel sur Mac. C'est un logiciel relativement ancien par rapport à cette, à cette solution-là. Donc, il a pas mal galéré pendant un moment avant de se résoudre, il me semble, à passer par le portail web pour récupérer ses emails de la mairie, sachant qu'il les a aussi sur son smartphone.
Parce que vous avez fait tout ça. Alors, je vois le temps qui défile juste pour mentionner. Est-ce que vous êtes, vous avez utilisé la solution de BlueMind,
c'est
me semble-t-il, qui est du logiciel libre, donc interopérable. Donc, en fait, le problème venait plutôt parce que Apple se connecte, j'imagine, difficilement. Voilà, le problème.
Et surtout, il avait une configuration monstrueuse avec 6 ou 7 boîtes différentes.
C'est les complexités parfois informatiques. Alors, je vois. Le temps avance et je veux qu'on se laisse du temps notamment pour parler d'inclusion numérique, mais peut-être dresser quel bilan. Là, en 2022, vous avez commencé, donc ça fait 2 ans. J'imagine que c'est toujours en route, mais ça me semble bien installé ce qu'on m'avait dit. Quel bilan vous en tirez, l'un et l'une d'ailleurs comme l'autre?
Alors, un bilan techniquement, c'est on est passé dans un environnement complètement différent de la solution classique qu'on utilisait des fournisseurs qu'on connaît. On a des choses positives et des choses voilà qui sont encore à travailler avec l'éditeur, avec les utilisateurs. Moi, je dirais qu'on est sur le chemin. Au bout d'un an et demi, c'est devenu incontournable. Donc, les gens se posent plus la question de autre chose. Il reste des choses à régler. On a des problématiques, par exemple, sur les VIP, les gens qui sont un petit peu, qui ont des besoins un peu spécifiques sur lesquels, effectivement, on a retravaillé un petit peu différemment. Mais voilà, on prend les besoins au fur et à mesure. On n'est pas complètement, bloqué sur tu utilises la version web absolument, s'il y a besoin de fonctionnalités avec un client de messagerie, on installe un client de messagerie, c'est interopérable aussi. Donc voilà, on s'adapte, on s'est adapté aux besoins en fonction des typologies d'usage et les choses avancent tranquillement. Il n'y a plus de remise en cause flagrante en disant oui, mais avant c'était mieux. On est passé à autre chose. Ça y est, ça roule. Ça roule.
Et c'est une question qui était venue sur le salon et qui, effectivement, vous avez fait tout cela avec une équipe assez restreinte, il me semble.
Très restreinte.
Vous êtes combien d'ADSI dans la
COF? À la DSI, au niveau technique, j'ai 2 responsables techniques et 2 techniciens et un chargé de projet.
Voilà, pour une grosse centaine, plusieurs centaines de postes, on le rappelle.
Ah bah, 700 postes.
700 postes, voilà. Donc, on va... bon, bravo. je n'ai pas d'autres mots qui me viennent.
Et pas d'accompagnement, je dirais, en termes de... Enfin, on a évidemment, on travaille avec un éditeur de manière très proche pour la mise en œuvre, mais pas de prestations d'accompagnement, de formation, etc. On a fait tout en interne, avec nos compétences, nos propres nos tutos. On a tout réécrit pour que ce soit le plus proche de l'utilisation. Utilisateurs et de ce qu'on connaît de nos utilisateurs.
Très bien. Grégory, vous avez quel regard vous portez sur un bilan ou...
Moi, le regard que je porte, c'est que c'est intéressant de voir comment il y a des enthousiasmes et il y a aussi parfois des résistances. Et à quoi sont dues ces résistances? Et vraiment, si j'avais un message à faire passer à un ou une future responsable politique dans une mairie ou autre, c'est l'accompagnement humain est absolument essentiel.
C'est-à-dire que toujours l'écho qu'on a, effectivement.
Et alors, moi, je trouve que c'est intéressant de ce que Corinne appelle le Big Bang, c'est-à-dire dire... Alors, évidemment, on avait annoncé à l'avance, on avait dit, mais à partir de telle date, vous utilisez telle adresse pour voir vos emails de la mairie, et point barre, pas autre chose. Donc ça, c'est... important de que ce soit la même règle pour tout le monde, plutôt que effectivement le faire petit bout par petit bout, parce que là, les gens sont vraiment hésitants. Mais une fois que c'est fait, il faut vraiment de l'accompagnement, prendre du temps d'expliquer, et d'expliquer des choses qui peuvent être très simples. Par exemple, il est où le bouton si je veux transférer un email à quelqu'un d'autre? Je ne le retrouve pas habituellement, il est dans tel coin. Je dis oui, mais là, l'environnement est légèrement différent. Il est à tel endroit, quoi, plutôt que tel autre. Ah, d'accord, il était là. Attends, ça fait 2 semaines que je cherche. Vraiment des détails vraiment simples. Où moi, j'ai été confronté, par exemple, à une assistante en mairie qui retrouvait pas ses petits dans le système de gestion électronique de documents. Parce qu'elle me disait, mais quand je suis sur le portail, tous ces icônes là sont tellement petits, j'arrive pas à comprendre où sont les choses. Et elle savait pas qu'elle pouvait appuyer simplement sur CTRL plus dans son navigateur pour avoir des boutons et des textes beaucoup plus grands. Rien que ça, ça lui a changé la vie du jour au lendemain. Ok, d'accord, c'est bon, je comprends, je vois où sont les choses, tout fonctionne bien. Donc c'est des choses qui, quand on est un petit peu versé en informatique, c'est des choses qu'on connaît, qu'on a l'habitude de faire, mais qui sont pas des évidences pour tout le monde. Et c'est tout à fait normal, quoi. C'est ce que les geeks appellent les normies, c'est les gens normaux, c'est vraiment des gens normaux. C'est les gens qui sont geeks comme vous et moi. C'est nous qui sommes pas tout à fait normaux.
Et d'où l'importance, voilà, de l'accompagnement, ouais, du partage.
Et côté interface, et le poids de l'interface utilisateur. C'est-à-dire que, ouais, vraiment, dans ce monde numérique extrêmement complexe dans lequel on est, un utilisateur lambda, qui n'a pas de compétences particulières, qui utilise son environnement numérique de manière basique, le changement d'interface utilisateur, c'est majeur. C'est-à-dire que vraiment, on est dans la mémoire du corps aussi, au niveau des schémas cognitifs. C'est-à-dire que je vais là, je ne réfléchis plus parce que je vais là. Et effectivement, ça fait 15 ans que je suis dans un écosystème identique. Et donc, j'ai des réflexes qu'il faut déconstruire. Et ça, c'est compliqué. Et comme c'est compliqué humainement parlant, il faut encore plus accompagner.
Ça me paraît des mots conclusifs sur ce sujet important, parce que je vois il est déjà 45, mais je m'étais engagé à vous permettre, parce que le sujet est effectivement important, évoquer la question de l'inclusivité numérique. Alors on va essayer, voilà, si on peut faire ça en 2 minutes, ce serait parfait. C'est un défi.
C'est un défi. Alors, inclusion numérique, donc sujet majeur aujourd'hui.
Présent dans la feuille de route.
Voilà. Ouais. Présent dans la feuille de route, présent et du coup axe de mon projet de direction. On ne peut pas aujourd'hui développer des outils, être DSI et pas parler d'inclusion numérique. C'est impossible. Parce que dans une collectivité territoriale, l'inclusion numérique, c'est pour nos propres agents. Parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous besoin des mêmes outils. On a des gens qui sont dans les agents territoriaux éloignés du numérique parce qu'ils en ont pas besoin tous les jours. Mais en fait, dans la vraie vie, ils en ont besoin tous les jours. Donc on a ce rôle-là auprès de nos agents, donc d'inclusion, pour pas qu'il y ait ceux effectivement qui ont la formation et ceux qui l'ont jamais ou alors un mois après. Ou voilà. Il y a l'inclusion numérique envers les usagers des services publics. Et il y a l'inclusion numérique vis-à-vis de tous les citoyens, c'est-à-dire la possibilité aussi d'avoir des outils qui nous permettent d'exercer la démocratie. Donc, pour tout ça, on a décidé de créer une offre avec un espace public numérique dans les maisons de quartier, dans un quartier, avec un formateur attitré qui fait des sessions de formation de 10 heures et sur des thématiques et qui correspondent aux besoins vraiment formalisés par les usagers, qui fait des ateliers personnalisés, etc. Et donc ça, c'est vraiment pour nous très important de continuer à avoir un espace où les gens peuvent venir, être accompagnés dans les démarches, se former ou simplement venir pour utiliser un matériel à disposition gratuitement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec la direction de la vie des quartiers, qui est évidemment portée par l'élu numérique et aussi l'élu sur la vie des quartiers. Donc c'est un projet conjoint et commun de la DSI avec la direction des quartiers pour vraiment mettre à disposition des usagers un espace qui soit pour eux d'accompagnement aux démarches numériques pour pas laisser les gens sur le côté.
Super. Et un enjeu vraiment, voilà, fracture numérique, on en parle de plein de manières de l'aborder, mais c'est un enjeu essentiel et bravo de vous engager là-dessus. Bah, notre échange, malheureusement, arrive à sa fin. Bah, j'aurais aimé continuer à discuter avec vous. On n'a pas parlé de la durabilité. Est-ce que vous faites également des efforts là-dessus? Grégory, vous nous parlez de Mastodon. Vous avez fait des tutoriels là-dessus. On n'aura pas le temps d'en parler, mais je mets les liens. Je renvoie, bien sûr, les personnes pour qu'elles creusent sur le sujet. Je renverrai également vers l'émission qu'on a fait sur Mastodon. Donc, Grégory Gutiérrez, élu à Malakoff au numérique et citoyenneté. Corinne Mijon, DSI de la ville de Malakoff. Merci à tous les deux d'avoir pris ce temps d'échanger avec nous et bravo pour ce que vous faites pour le logiciel libre.